Lucide Bacle 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton alcoolémie et ton fichier. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du vendredi, en une version peut-être plus courte que d'habitude.
On va commencer, oui, version un petit peu plus courte avec du coup un petit peu de musique pour meubler, et on va commencer par une petite information concernant à Lyon, un faux centre d'hébergement, mais véritable centre de rétention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le dénommé OFI, qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Et on restera à Lyon pour parler de la crise, la véritable crise d'hébergement d'urgence en région lyonnaise et de ce que font, ou plutôt ce que font pas les politiciens pour y remédier.
Ce sera donc notre première rubrique logement. On continuera avec l'information locale et on parlera des véritables revenus de Gérard Collomb. Article salutaire paru dans Rébellion hier et qui met à mal la déclaration de Collomb qui nous disait en début de semaine qu'il était tombé à 4000 euros de salaire après les sanctions du Sénat pour défaut de présence.
Bientôt, il fera lui aussi une demande d'hébergement d'urgence. Et après, on va vous parler d'un rendez-vous dimanche 15 janvier, donc dans 2 jours à la Lutine, pour s'organiser après la mort de Mehdi à Vénissieux en décembre.
Et ça sera l'occasion de revenir un petit peu sur cette mort un peu étrange dont on avait déjà parlé dans le Canu Info. On enchaînera ensuite avec l'information nationale. Alors d'abord, encore une fois, on va parler des migrants et de la police qui les dégagent dans la rue assez violemment à Paris.
Et après un petit moment de musique, on vous parlera de l'audience en appel pour les 8 salariés de Goodyear qui ont du coup écopé plusieurs mois avec sursis. On vous en dira plus tout à l'heure.
Et on terminera bien sûr avec l'agenda, le traditionnel agenda, pour que vous puissiez vous occuper ce week-end et en début de semaine.
Bonne écoute
sur Radio Canu.
À la question du manque de logement, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés. C'est pas en cachant la misère sous le tapis que c'est pas.
Ah, écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
On a pu lire ça cette semaine, notamment sur rue 89 Lyon, où se lisent parfois de très bons articles. Des familles croyaient trouver un foyer d'hébergement à Lyon et elles se sont retrouvées assignées à résidence dans un centre de préparation au retour, nouvellement créé dans le quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement. Alors c'était à la une des médias en novembre, on en a parlé également ici au Canu Info, des établissements scolaires occupés pour mettre à l'abri des familles à la rue et leurs enfants scolarisés et alertés sur leur situation. Après plusieurs mois de mobilisation, donc dans ces écoles où étaient logées ces familles et leurs enfants, après plusieurs jours de mobilisation, donc 34 familles, ce qui représentait au total 68 enfants, avaient été hébergés par la préfecture du Rhône, après bien sûr, évidemment, encore une fois, le forcing, notamment de Jamais Sans Toi. Une association qui se bat sur ces questions-là, un collectif plutôt, pardon, qui se bat sur ces questions-là. Certaines de ces familles, déboutées du droit d'asile, sont allées à l'hôtel. Une dizaine de jours plus tard, ces familles ont été visitées par des employés de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'on appellera OFI, un établissement du ministère de l'Intérieur. On a trace d'au moins 5 familles qui ont connu sur Lyon pareille expérience, c'est-à-dire des familles déboutées du droit d'asile qui sont allées à l'hôtel et qui ont été visitées par les services du ministère de l'Intérieur pour les inviter à accomplir une nouvelle démarche. À chaque fois, on leur remet un courrier qui leur annonce leur obligation de quitter l'hôtel et de rejoindre la rue Lefort, très mal nommé d'ailleurs, dans le 7e arrondissement, où une équipe de l'OFI les reçoit pour préparer un retour dans leur pays. Alors qu'est-ce qu'on trouve au 22 rue de l'Effort? Au 22 rue de l'Effort à Gerland, l'OFI a pris ses quartiers dans un ancien foyer pour personnes âgées aveugles. Il n'y a plus aujourd'hui de personnes âgées aveugles et donc l'OFI, enfin dans ce lieu en tout cas, et l'OFI, l'OFI y a pris ses quartiers. Il s'agit d'un, je cite la terminologie officielle, centre de préparation au retour. Et c'est le deuxième en France après des expérimentations qui ont déjà eu lieu en Moselle. Le Rhône est donc le deuxième à expérimenter ce type de dispositif. Ce lieu a ouvert le 15 novembre 2016 et le centre lyonnais héberge aujourd'hui 15 familles, soit environ 45 personnes pour l'essentiel albanaise, et il a une capacité d'accueil de 60 places. Un objectif de 80 places a été fixé par la préfecture. Et qui se charge de tout ça? Eh bien, c'est Adoma qui en assure la gestion du lieu. Et si vous allez sur le site d'Adoma, Adoma a comme slogan quand même Adoma, l'insertion par le logement. Quand on sait que là, il gère un lieu pour expulser des personnes, ça en serait presque drôle, si ça n'était pas triste à pleurer. Alors, toutes ces personnes qui sont déboutées du droit d'asile et qui se retrouvent rue de l'effort sont, une fois qu'elles ont accepté de loger dans les logements mis à disposition dans cette rue du 7e arrondissement, elles sont assignées à résidence et elles doivent donc aller pointer deux fois par semaine au commissariat du 7e arrondissement. Je cite la préfecture du Rhône, on propose aux déboutés de l'asile un retour dans la dignité. L'OFI est là pour accompagner ce retour au pays, retour dans la dignité donc, avec assignation à résidence et obligation donc du coup d'aller pointer dans le commissariat du quartier. Les familles sont dans ce lieu rue de l'Effort, donc dans le 7e arrondissement, pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Le temps de préparer le retour, dit la préfecture, un premier départ est d'ailleurs prévu mi-janvier. Une aide financière au retour sera également versée, mais le montant n'a absolument pas été précisé. En visite mercredi, ce mercredi au gymnase ouvert dans le cadre du plan froid, le préfet délégué à l'égalité des chances, Xavier Inglebert, se féliciter de ce dispositif et de citer « Cela nous permet d'inciter les personnes à retourner dans leur pays en leur faisant prendre conscience qu'il y a une aporie à rester ici. » Une aporie, c'est une absence d'issue. Donc on leur fait prendre conscience de ceci en les logeant et en les assignant à résidence. L'incitation est claire, soit vous acceptez le dispositif d'aide au retour et vous restez hébergé pour 45 jours et ensuite faudra partir, soit vous refusez de rentrer chez vous et vous avez de très fortes chances de vous retrouver à la rue. Les collectifs formés autour des écoles où ces familles ont scolarisé leurs enfants dénoncent une forme de chantage à l'hébergement. C'est notamment des militants de RESF qui le disent et certains qui ont apporté leur aide à des familles disent notamment un individu, je le cite, « Ce dispositif est une souricière bien organisée. On cache au maximum la vérité aux familles jusqu'à les coincer à l'intérieur de ce bureau où on leur notifie qu'elles sont assignées à résidence dans ce nouveau foyer d'hébergement et qu'elles n'ont plus de toit si elles refusent. » Ce qu'on venait de dire donc. Dans un communiqué de presse, le réseau Jamais sans toit, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un petit peu à l'initiative de tout ce qui a été mis en place dans les écoles en novembre, quand le froid a commencé à venir et que des familles se retrouvaient à la rue. Donc le communiqué de presse de ce réseau de soutien donc parle d'un centre de rétention qui ne dit pas son nom et ils ont raison, ce que le politiquement correct appelle l'aide au retour. On pourrait imaginer que ces personnes qui étaient mises à l'abri à l'hôtel et qui refusent le dispositif d'aide au retour puissent faire valoir leur droit à la continuité de l'hébergement. C'est ce qui est prévu par la loi sur le droit au logement. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Notamment, il y a un avocat qui a tenté de soutenir une des familles qui avait été remise à la rue et il a été débouté par le tribunal administratif de Lyon qui a suivi l'argumentaire de la préfecture du Rhône. Ainsi, la préfecture comme le tribunal administratif s'appuie sur une série de jurisprudences restrictives en matière de droit à l'hébergement d'urgence et ces jurisprudences ont été notamment statué et appuyé par le Conseil d'État qui affirme que concernant les déboutés du droit d'asile, ceux-ci n'ont pas vocation, donc ceux à qui on a refusé le droit d'asile, ils n'ont pas vocation à bénéficier du droit à la continuité de l'hébergement, ils n'ont qu'un devoir et aucun droit, se casser. Ces hommes et ces femmes peuvent donc être traités en dehors du droit de tout un chacun. Voilà ce que a statué notamment le Conseil d'État et ce qui fait aujourd'hui jurisprudence devant les tribunaux. Le pouvoir discrétionnaire du préfet du Rhône peut œuvrer dans un sens comme dans l'autre, mais en général, il choisit évidemment le sens de l'expulsion. Alors, dernier événement, c'était jeudi 4 janvier, alors que deux familles allaient être renvoyées du centre d'hébergement vers la rue, puisqu'elles avaient refusé l'aide au retour, c'est-à-dire cette aide d'hébergement de 45 jours après quoi il faut repartir dans son pays. Donc la plupart des familles, enfin beaucoup de familles la refusent. On s'apprête à les remettre à la rue et là des militants sont venus dire leur colère devant les bureaux de l'OFI, donc dans cette fameuse rue de l'Effort dans le 7e arrondissement. Du coup, le directeur de l'OFI du Rhône est obligé de sortir à la rencontre d'une quarantaine de manifestants pour tenter de déminer le terrain. Il dit à ce moment-là à ces manifestants qu'il s'agit d'un malentendu et il s'engage à trouver un hébergement à ces familles qu'il allait pourtant remettre à ce moment-là à la rue. Et il répète la doctrine du dispositif, je le cite, « On ne force pas les gens à rentrer chez eux, c'est leur propre volonté ». Voilà, 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 belle ambiance. Alors, le préfet à l'égalité des chances le soulignait lourdement lors de sa visite d'un gymnase ouvert dans la semaine. On a pu lire de nombreux articles dans la presse locale et notamment sur Rebellion. Dans le cadre du plan froid, disait ce préfet à l'égalité des chances, 70% du dispositif d'hébergement hivernal est composé de déboutés de l'asile. À croire qu'on va bientôt voir rôder des agents de l'OFI dans le gymnase récemment ouvert. Et de gymnase, on va vous en parler tout de suite puisqu'on reste sur la question du logement à Lyon.
Et oui, et juste pour terminer sur ton intervention, moi ça m'évoque des décisions qui ont pu avoir dans des tribunaux où en fait le placement en rétention administrative était considéré comme une mise à l'abri des personnes qui étaient à la rue. À partir de ce moment-là, et ben voilà, c'est un chantage très facile de dire à des personnes soit vous restez à la rue, soit vous rentrez dans un dispositif qui a vocation à vous renvoyer. Donc c'est très très inquiétant. Et ce qui est aussi très très inquiétant, c'est la situation en sens plus large en région lyonnaise des personnes qui dorment à la rue, donc des personnes qui sont en demande d'hébergement d'urgence et qui n'ont pas accès à cet hébergement qui pourtant est censé être un droit fondamental. Le fait d'avoir un abri, le fait d'avoir un logement, mais bon, on ne va pas aller jusque là. Déjà un hébergement, c'est un droit qui est garanti par toutes les conventions internationales. C'est le collectif PUCE, les professionnels de l'urgence sociale, qui continue à nous alerter ces derniers jours avec des communiqués qui ont été publiés aujourd'hui et vendredi dernier sur Rébellion notamment, qui nous alerte sur la situation critique des personnes dormant à la rue dans la région lyonnaise. Il et elle dénoncent la mauvaise volonté des politiques dans la gestion de l'urgence sociale. Et faut dire que c'est une situation que tout le monde, toutes les personnes habitant à Lyon connaissent parce que on connaît tous, on voit tous et toutes les personnes dans les rues de Lyon. C'est pas une question qui nous est inconnue, mais quand même cette petite piqûre de rappel a permis de remédiatiser la question à laquelle des fois on a un peu tendance à s'habituer. Et donc alors que les températures sont passées en dessous de zéro et qui vont continuer à l'être, le collectif PUCE nous rappelle que toutes les places d'hébergement prévues et financées pour l'hiver, donc officiellement financées depuis le 2 novembre qui est la date officielle du début du plan froid, n'existent toujours pas, à l'exception de cette initiative qui date du coup de la semaine dernière, le mardi 3 janvier. Le préfet a effectivement déclenché ce plan grand froid avec l'ouverture d'un gymnase municipal qui permet la mise à l'abri de 140 personnes. Alors ces 140 personnes sont sur des petits lits de camp, du coup dans un gymnase où il y a quand même la nuit une température autour de 10-11 degrés. Les personnes sont accueillies entre 18h et 10h. Donc pendant la journée, elles retournent à la rue ou elles errent dans la ville. Et donc 140 personnes, alors ça ne nous paraît pas beaucoup quand même. Et bien il y avait bien un projet d'ouvrir un deuxième gymnase avec un peu le même caractéristique, le même type d'accueil, si on peut l'appeler accueil. Mais ça n'a pas été fait, alors on ne sait pas trop.
On peut d'ailleurs difficilement appeler ça accueil, hein, tant un gymnase, il faut voir les photos, hein, c'est des lits, des lits de camp assez peu confortables les uns sur les autres.
À 10 cm les uns des autres, tous dans la même salle, du coup, hommes, femmes, enfants, famille, bien évidemment, c'est vraiment de la mise à l'abri du premier degré, juste pour que les gens ne soient pas à la rue, mais il n'y a rien de plus. Et du coup, ce deuxième gymnase, au final, n'a pas été ouvert. On ne sait pas trop par la décision de qui, mais apparemment...
La mairie ou la préfecture,
oui,
chacun se renvoie un peu la balle.
On ne sait pas trop qui parmi les décideurs quand même publics, la mairie et la préfecture, il y a eu des personnes qui ont dit qu'en fait il n'y avait pas besoin parce que dans ce premier gymnase, il n'y avait pas toutes les places qui étaient occupées. En fait, les personnes à la rue, ça ne les intéressait pas d'être à l'abri. En fait, ce qui est intéressant, c'est après croiser ces informations avec les informations qui nous donnent le SAMU, le 115. En fait, il y aurait... Après, c'est des chiffres qui sont difficilement vérifiables dans le détail, mais autour de 1500 personnes à la rue. En fait, ces chiffres sont obtenus en regardant les appels au 115. Donc, il y a entre 250 et 350 personnes qui appellent par jour le 115, sachant que quand les personnes demandent un hébergement d'urgence, on leur dit d'appeler tous les 15 jours. Donc, voilà. D'où l'estimation de 1500 personnes. On voit bien que 140 personnes, c'est même pas le 10% de ça. Et sachant que le plan froid, d'habitude, c'est des vraies places qui sont mises à disposition, des places en hôtel, des places au centre d'hébergement. On ne peut pas vraiment appeler un gymnase un plan froid. Les personnes qui sont à la rue, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. Il y a des familles aussi. L'organisme qui centralise les demandes d'hébergement d'urgence, la maison de la veille sociale, on peut faire une demande là-bas quand on demande un hébergement d'urgence, ce qui veut dire une mise à l'abri vraiment de base. On peut attendre des années avant d'avoir un hébergement. Le système d'hébergement d'urgence est actuellement à Lyon saturé. Comme en fait, il y a une loi qui est quand même positive dans les faits qui empêche la remise à la rue des personnes une fois qu'elles sont hébergées. On soupçonne un peu les pouvoirs publics d'être un peu réticents à ouvrir de nouvelles places pendant l'hiver, parce qu'en fait, en respectant cette loi, ils ne pourront plus remettre à la rue les personnes hébergées. Donc ça veut dire qu'ils seront obligés d'augmenter le nombre total des places d'hébergement à Lyon et ça serait très coûteux. Alors, que dire qu'il fait moins de 10 quand même à Lyon en ce moment la nuit. Vendredi 30 décembre, il y a une personne sans abri qui est décédée, place Bellecour, dans la rue. Et c'est des décès de personnes qui dorment à la rue. Ça arrive souvent, ça arrive tous les hivers, ça arrive aussi en été d'ailleurs. Et c'est souvent des personnes qui meurent en isolement total parce qu'ils n'ont pas eu un endroit où s'abriter. Donc je vais vous juste lire un petit bout du communiqué du collectif PUCE.
Plus c'est professionnel
de l'urgence sociale. Ouais. Du coup, c'est des travailleurs sociaux qui travaillent au SAMU social, qui font des maraudes, qui travaillent dans des centres d'hébergement et du coup, qui sont en contact direct avec les personnes qui sont à la rue et qui, dans le passé et qui actuellement encore, ont pu mener des batailles contre la préfecture en faveur des personnes à la rue ou pour la prolongation de l'hébergement. Donc je vous cite un petit passage de ce communiqué. Les besoins sont connus par les équipes. Faut-il encore des morts pour que l'État applique ses lois? Comment est-il possible d'annoncer que personne n'est dehors quand le 115 de la SAMU sociale laisse des personnes sans solution au quotidien? Il faut sortir de l'idée reçue que les personnes SDF refusent d'être mises à l'abri quand 1500 personnes différentes font appel au 115. Comment peut-on parler du désir de se mettre à l'abri quand les solutions proposées sont indignes? À quand l'ouverture des places adaptées? Nous attendons des solutions concrètes et immédiates, ainsi que la mise en place d'une politique sociale ambitieuse et proche du terrain, pour que plus personne ne soit contraint de dormir dehors demain. Si tel n'est pas le cas, parce qu'il en va de notre éthique professionnelle, nous nous verrons contraints et contraintes d'engager un mouvement de mobilisation. Nous comptons sur la responsabilité des décideurs pour prendre la mesure de l'urgence. Donc peut-être... À tout bientôt, une grande mobilisation à ces sujets.
Ouais, et un collectif du coup qui rappelle là dans sa lettre d'intention que ouvrir des gymnases c'est tout sinon une solution et qu'il est bien normal que certains et certaines qui se retrouvent à la rue n'aient pas forcément une grande envie de rejoindre ces lieux où on est tous les uns sur les autres dans des conditions assez difficiles et où en plus ça n'est pas ouvert toute la journée. On ne peut pas poser ses affaires toute la journée. Voilà, on enchaîne avec de l'information locale.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec smart. La volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous allez bien, la précarité, elle n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Il va falloir sortir un petit peu votre calculatrice, car en début de semaine, Gérard Collomb a voulu faire pleurer tous les Lyonnais et Lyonnaises, tous les Françaises, toutes les Françaises et Français, en affirmant que les pénalités que lui infligeait le Sénat allaient lui réduire considérablement ses revenus. Il serait tombé à 4000 euros par mois. Les revenus des élus sont complexes à calculer et autorisent beaucoup de cumuls, souvent peu connus. C'est ce qu'un très bon article de Rebellion nous rappelle. Depuis hier, il est paru jeudi, et les journalistes ont entrepris un petit calcul pour rappeler à Gérard Collomb et à ceux qu'il gouverne combien en réalité celui-ci touche tous les mois. Alors, il touche a priori un minimum de 20 000 euros par mois et non pas 4 000 euros par mois, grâce à un système de cumul systématique et d'avantages sans fin dont bénéficient certains élus comme lui. Voilà, alors je vous ai annoncé le fait qu'il fallait sortir un petit peu sa calculatrice. Pour me suivre, je vais pas être très très long, j'ai un petit peu synthétisé cet article de Rebellion et j'ai gardé des gros chiffres. Première chose, Collomb ment en disant qu'il ne touche rien en tant que maire et président de la métropole. Dans les faits, la ville de Lyon donc complète son salaire à hauteur de 2757 euros pour atteindre les 8272 euros, c'est-à-dire 8272 euros, c'est le maximum autorisé au titre du cumul des mandats. Si vous voulez, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de toucher plus de 8272 euros. Eh bien, du coup, vu qu'il ne touche pas 8272 euros de la part de ses autres sources de revenus, pardon, la ville de Lyon complète et lui verse quand même 2757 euros. Et ce ne sont pas les milliers d'euros mensuels que Collomb a oubliés quand il a déclaré être tombé à 4000 euros. En effet, outre l'indemnité de frais de mandat, ce qu'on appelle l'IRFM, indemnité de frais de mandat, qu'il touche, c'est-à-dire 6037 euros en tant que sénateur, il touche également une indemnité de résidence de 166 euros et une autre de 1420 euros, c'est une indemnité de fonction celle-ci. Alors, tout ceci nous fait déjà atteindre, si on ajoute les 8272 euros plus ce que je viens de citer, 15895 euros. Et à ceci s'ajoute 3500 euros par mois qu'il touche de sa retraite de l'éducation nationale, puisque il a une pension de professeur agrégé du secondaire. Il a exercé une petite dizaine d'années, ou 10 ans, je ne sais plus exactement, comme professeur dans l'éducation nationale, et puis ensuite il a cotisé pour la retraite, et donc aujourd'hui il touche une retraite de 3500 euros par mois, qui s'ajoute donc aux 15895 euros qu'il avait déjà engrangés dans notre précédent calcul. À ceci s'ajoute une retraite complémentaire au titre de son ancien mandat de conseiller régional, et il a été 7 ans conseiller régional, ça lui fait donc 1246 euros, et ces 1246 euros ne rentrent pas dans le calcul du cumul des mandats, donc on peut les additionner, on arrive donc à 20641 euros. C'est déjà pas mal. À ceci s'ajoutent les petits cadeaux du Sénat, alors notamment une dotation micro-informatique de 5000 euros sur 3 ans, c'est-à-dire 100 euros par mois. Comme il est encore parlementaire, par ailleurs, il ne peut pas encore faire valoir ses droits à sa retraite pour ses années comme député, mais à terme, cette pension de retraite de député, puisqu'il a, avant d'être sénateur, été député, devrait lui rapporter plus de 6000 euros par mois.
Non.
Voilà.
Comme quoi, et donc, il y a des retraités qui vont bien.
Qui vont bien, qui vont très bien.
Qui s'en sortent plutôt pas mal.
Tout à fait. Et le site de Rebellion de conclure, avec au minimum 20 000 euros mensuels, Gérard devrait en effet pouvoir survivre sans les jetons de présence, ces fameux jetons qu'il a manqué, donc ce pourquoi il a été pénalisé par le Sénat, et autre indemnité de représentation allouée dans certaines collectivités locales. Une fois réellement à la retraite, il devrait toujours toucher, notre bon GG, près de 15 000 euros grâce à sa collection de pensions. Un luxe qui permet de mieux comprendre sa volonté de transformer Lyon en destination de choix pour millionnaires et également son attachement au banquier Macron. Petite musique pour nous détendre.
Le plus petit de mon entourage, j'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis, et j'entends la franchise, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui au fond, mais pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions et je de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait 2-3 jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours que t'es flippé parce qu'on n'est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons.
Ouais, t'as compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte qu'il se pose toutes ces questions et je leur souhaite. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix.
J'en ai rêvé.
Et ce titre extrêmement naïf était l'œuvre d'un groupe français qui s'appelle The Pirouette. Et le titre s'appelle L'Escalier. C'était pour détendre l'atmosphère entre deux informations.
un peu glauque en effet.
Et on va repartir avec un pré-agenda, puisque on va vous parler d'un rendez-vous qui a lieu ce dimanche 15 janvier à 14h à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, avec la famille de Mehdi. Mehdi, c'est un garçon d'une vingtaine d'années qui est mort dans la nuit du 10 au 11 décembre à Vénissieux, décembre 2016, donc récemment. Dans des circonstances qui restent floues, il est décédé en rentrant en scooter avec deux amis avec qui il venait de fêter la naissance de sa fille qui était née 15 jours plus tôt. Alors, je vous disais que ces circonstances étaient floues et troubles puisque il s'est produit cet accident alors qu'une patrouille de police cherchait à contrôler le scooter car ses deux passagers avaient un casque et Mehdi non. Dans une première version du drame paru dans la presse, le lendemain, donc dès le 11 ou le 12 peut-être, je ne sais plus, il a été clairement spécifié que le véhicule de police n'avait pas engagé une course-poursuite avec le scooter. Mais le surlendemain, un autre article du Progrès sous-entendait l'inverse et justifiait les causes du décès par une consommation énorme d'alcool, façon de dire que ces jeunes avaient trop bu et du coup qu'ils avaient été poursuivis par la police. Pourtant, deux autres passagers n'étaient pas encore en mesure de s'exprimer au moment où cet article avait été écrit dans la presse locale. Dans le cas où cette information serait vérifiée, plusieurs questions se posent. Pourquoi la famille de la victime n'a-t-elle toujours aucune information sur le supposé taux d'alcoolémie de Mehdi, ni d'ailleurs sur aucune pièce du dossier? Pourquoi une seconde voiture de police est-elle arrivée sur le lieu avant même l'arrivée des pompiers? Les gestes de premier secours ont-ils été bien effectués à ce moment-là? Quel était le taux d'alcoolémie des policiers? Depuis quand avait-il pris en chasse le scooter? Enfin, comment une voiture n'a pas pu dépasser et rattraper en toute sécurité un scooter avec trois adultes corpulents à son bord? Façon de dire et de se demander si cette course-poursuite avec une mise en danger si manifeste était véritablement nécessaire. Si pour la police il s'agit d'un banal accident de la circulation traité par la brigade routière, la famille de Mehdi, elle, réclame l'ouverture d'une réelle enquête impartiale pour que la vérité soit connue et la justice rendue. Et cette affaire s'inscrit dans une longue série de combats de familles qui ont perdu des proches, souvent dans les banlieues françaises, et notamment on pense récemment en banlieue parisienne à la famille d'Adama Traoré, et on a même, la justice a même mis ses frères, l'un a reçu du sursis, un autre est en prison. Donc un grand nombre de familles luttent pour la justice et cette vérité, comme le fera donc dimanche à la Lutine la famille de Mehdi. Venez nombreux et nombreuses, c'est au 91 rue Montesquieu et ça commence à 14h.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et donc, on passe à la rubrique nationale et on va partir à Paris. Où on parle encore de personnes à la rue. Et plus spécifiquement, on va vous expliquer comment la police réprime les migrants qui se retrouvent à la rue à Paris.
Explique-nous tout ça.
Alors, donc, on revient un peu en arrière. Vous vous souvenez la période du démantèlement de Calais, tous les débats, les politiques, tout ça et tout ça. Et bien, le 10 novembre 2016, un peu dans ce contexte, Il y a un centre humanitaire, entre guillemets, bien entendu, qui est inauguré par Madame Hidalgo, la maire de Paris, à Porte de la Chapelle. Donc le but de ce centre, c'est d'assurer un premier accueil aux migrants et migrantes arrivant dans la ville et sans solution d'hébergement. L'idée, c'est que ce soit un hébergement de courte durée pour que les personnes soient ensuite orientées vers d'autres structures qui concernent soit leur demande d'asile, soit leur hébergement plus à long terme. Donc au bout de quelques jours de fonctionnement, cet établissement de 400 places a été saturé, si bien que de nombreux migrants et migrantes restent à la rue et pour espérer avoir une chance d'entrer, en fait, ils sont obligés de faire la queue une partie de la nuit. Et ils sont environ 150 aujourd'hui, genre dans ces semaines, à s'y retrouver dès 4h du matin. Et avec 70 à 80 personnes qui arrivent chaque jour et qui demandent un hébergement dans cet endroit. Donc voilà, initiative discutable de la mairie de Paris. De toute manière, il y a quand même plein de personnes qui sont dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe autour? Il y a quand même un réseau de solidarité autour de ces personnes. C'est notamment deux associations, le collectif Petit Déj à Flandre, qui réunit près de 170 habitants et habitantes des quartiers de Flandre et Olé-Pajol, dont le 18e et 19e arrondissement à Paris. Et Médecins Sans Frontières, qui vient d'installer un camion médicalisé, du coup, à côté de ce centre, notamment ciblant les personnes qui attendent de trouver une place, mais qui, du coup, sont à la rue. Sachant qu'à Paris, il fait aussi froid qu'à Lyon en ce moment, voire un peu plus. Donc, il y a des cas d'hypothermie et des personnes qui ont des problèmes de santé par ailleurs. Et le fait de rester dehors, bah, ça les rend de plus en plus graves. Donc, c'est ces deux associations notamment qui dénoncent en première des événements qui sont assez scandaleux, c'est-à-dire ils nous parlent de comment ça se passe, la répression policière inhumaine et totalement disproportionnée envers ces personnes qui restent à la rue. Donc, la première association, le Petit Déj à Flandre, il diffuse un communiqué le 6 janvier, dénonçant deux événements survenus les 2 janvier et le 30 décembre dernier, en rue Pajol, donc à côté de ce centre. Il raconte que, du coup, dans cette rue, il y avait plusieurs personnes qui dormaient à la rue. Il y a la police qui intervient avec les employés de la propreté de Paris. Et en fait, ordre leur est donné à toutes ces personnes qui dorment à la rue de délester de leur couverture et duvet, qu'ils doivent donc laisser tomber au sol. Et les employés de la propriété de Paris ramassent toutes ces affaires après et mettent ainsi à la benne des dizaines de sacs de couchage, des couvertures et des couettes. En quelques minutes, une soixantaine de personnes se retrouvent sans rien, alors même que la température chute inexorablement avec la tombée de la nuit. Évidemment, ces personnes essaient de se disperser avant que la police intervienne plus lourdement. Du coup, même pour les associations, c'est difficile de, après, fournir un soutien. MSF, Médecins Sans Frontières, fait un témoignage semblable quelques jours après. Ils ont été témoins, du coup, effectivement, des policiers qui arrivent obligeant une quarantaine de migrants qui étaient assis par terre à se lever en confisquant leur couverture. MSF dit qu'ils n'ont pas le temps d'intervenir, tout s'est passé très vite. Et les réfugiés se sont exécutés et se sont dispersés. Le message est clair. L'objectif est d'empêcher toute réinstallation de tentes, du coup de renvoyer toute personne, de disperser surtout les personnes. Il y a même une personne de nationalité érythréenne qui refuse une couverture parce qu'elle dit que de toute façon la police va le reprendre. Et sur Paris Lutinfo, on a témoignage d'un dernier événement le 9 janvier. Sur l'esplanade, Nathalie Sarraute, toujours dans le même quartier, où en fait des personnes à la rue amènent des tentes et ils commencent à installer ces tentes. Et ben, quelques heures après, les CRS et les services propreté de la mairie de Paris, ben, qui sont toujours là apparemment, arrivent sur les lieux. Les CRS, extrêmement violents et hilares, pour la plupart masqués et matricules cachés, entourent le camp, matraquent et gazent à la main sans aucune sommation. Ils chargent, gazent et matraquent toutes les personnes sur leur passage, dont des femmes et des mineurs, qui, terrorisés, prennent la fuite sans même avoir le temps de mettre leurs chaussures. Sommet de s'expliquer, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu vraiment sur le fond, c'est qu'en tentant de contre-attaquer, en fait, il dit il faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers. Ce que font aujourd'hui les forces de police, c'est de la mise à l'abri de personnes qui sont vulnérables, a-t-il affirmé, parlant même d'humanité. Alors ça nous paraît assez paradoxal. Et il poursuit, c'est vrai, quelquefois, il peut y avoir une forme de contrainte à mettre à l'abri quelqu'un. Et on a du mal quand même à voir de quoi on nous parle, là. Mise à l'abri, c'est pas du tout ce qui se passe à Paris. C'est juste une répression très, très dure des personnes qui essaient de passer la nuit et d'avoir une place pour dormir. Mais les violences policières ne s'arrêtent pas à ces événements qui, pour l'instant, ont été assez circonstanciés. C'est trois événements qui nous ont été reportés assez récentes. Donc on espère que la médiatisation va faire en sorte que ça s'arrête. Mais en vrai, la police réprime les personnes qui sont dans la queue. Ils gazent à la moindre bousculade, ils recourent au gaz lacrymogène dans la file d'attente, dès que les migrants s'assoient pour se reposer, on leur demande de se lever pour qu'ils s'épuisent, pour qu'ils partent ailleurs. Et ces mêmes méthodes de harcèlement, ça se passe aussi à Calais. C'est l'association Salam qui rapporte le 8 janvier des témoignages de migrants affirmant s'être fait dérober leurs chaussures par des policiers. Et des cas d'argent confisqués, des façades de téléphones détériorées sont aussi relatés, ce qui s'ajoute au passage au contrôle aux faciès systématique dont les migrants et migrantes sont victimes dans la région. Là, on parle de Calais. Et donc, voilà pour ce qui se passe à Paris.
Petite musique. Alex Cameron sur Radio Canu.
She just wanted to hold his heart in her hands for a while. Drops of blood. Green glass vial. He could tell her a thousand times not to stare when he gets wild. Drops of blood in the green glass vial. Oh,
retour à l'information et on va vous donner le compte-rendu d'un procès qui a eu lieu cette semaine concernant les huit salariés de Goodyear.
Tout à fait, c'était mercredi 11 janvier, donc il y a deux jours, qu'il y a eu cette audience en appel. Pour les 8 salariés Goodyear qui avaient été condamnés en janvier 2016 à 8 mois de prison ferme et 15 mois avec sursis. Alors, petit rappel de fait pour les personnes qui, comme moi, ont des problèmes de mémoire. Alors, fin novembre 2013, donc c'est il y a déjà 3 ans, plus de 3 ans, après 7 ans de bataille acharnée entre le groupe Goodyear et le 1173 salariés, la direction du site Amiens Nord de l'entreprise Goodyear annonce une fermeture définitive de l'usine de pneumatiques. Toutes les possibilités de reprise semblent avoir été épuisées, ainsi que les recours juridiques. Le 4 janvier 2014, les délégués CGT se présentent dans le bureau de la direction pour évoquer les conditions financières du plan de licenciement à venir. Michel Deilly, directeur du site, renvoie le syndicat à la date du 6 janvier, le temps de transmettre leur demande au groupe situé au Luxembourg. C'est donc 3 jours plus tard que va avoir lieu la entre guillemets, séquestration, ainsi définie par le tribunal en première instance, alors que la direction locale annonce directement aux salariés le refus du groupe de négocier quoi que ce soit. Donc c'est pour cette dite séquestration. Et en termes juridiques, ça s'appelle exactement séquestration ou violence en réunion. Que du coup, ces 8 ex-salariés de Goodyear étaient re-examinés en appel. Donc, il y en a 5 parmi ceux-ci qui ont eu 10 mois de prison avec sursis, avec 5 ans de mise à l'épreuve et inscription au casier judiciaire. Et 3 autres, 2, ils ont coupé 3 mois avec sursis. Également 5 ans de mise à l'épreuve et inscription au casier judiciaire. Et une autre personne a été relaxée. On ne comprend pas trop pourquoi, parce que ces personnes étaient ensemble au même moment. Donc, ce qui est assez symbolique dans cette enquête, dans cette affaire, c'est qu'effectivement, c'est du coup des questions syndicales, il s'agit de répression syndicale. En fait, les dirigeants de Goodyear avaient retiré leur plainte qu'ils avaient posée au début de l'affaire. Et en fait, l'affaire a continué parce que le parquet s'est obstiné et donc à conduire cette bataille judiciaire et réprimer du coup cette initiative syndicale de personnes qui se sont battues pour leur emploi, leur filière et leur région. Et ce qu'on peut aussi dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des anciens salariés Goodyear n'a pas retrouvé de travail, donc ça date d'il y a 3 ans. Il y a déjà eu plusieurs suicides parmi les personnes licenciées et les accusés ont perdu beaucoup depuis la fermeture. La plupart n'ont pas d'emploi. Une décision comme celle-là est une manière de les achever. Donc ce qui est positif, c'est que quand même il y a beaucoup de soutien des militants de la CGT, d'autres syndicats, de militants qui ne sont pas de syndicats et que cette histoire va peut-être continuer et la peine changer.
Rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
C'est donc l'heure du traditionnel agenda. Et on va commencer avec toi d'abord.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tous les micros sont ouverts? Oui, tout va bien. Alors, du coup, désolée, mais ce soir, il ne se passe pas grand-chose. Donc, peut-être que tu as des infos, non?
Ouais, j'ai entendu parler d'un petit concert au bar à côté de Radio Canu, la Méduse. Mais alors, je ne sais même pas ce qui s'y joue.
Voilà.
Bon, sinon, il y a un site pour les concerts. Hein, on n'a pas vraiment d'infos militantes, j'ai l'impression. Mais pour les concerts, il y a un site qui s'appelle Ville Morte à Lyon, qui recense pas mal de lieux et de concerts sur la ville.
Sinon, pour passer au côté un peu plus militant, parce que quand même, le samedi après-midi, vous vous ennuyez, vous avez envie quand même de parler politique et même histoire. En fait, samedi 14, donc demain, à 15h, à la librairie La Griffe, qui est en rue Sébastien Griffe.
Tout simplement.
Tout simplement, je ne sais plus le numéro.
Dans le 3e arrondissement. Ouais, le numéro, je ne sais pas non plus.
Dans le 7e arrondissement. Oui, attention. Hein. Il y a une rencontre-débat autour du livre La Grève des Ovalis, en présence des auteurs Claire Ozias et Annie Couel. La Grève des Ovalistes, ouvrière de la soie qui préparait les fils de soie pour le tissage de Lyon en juin-juillet 1869, est une des premières grandes mobilisations du mouvement ouvrier en France.
Juste après les grandes révoltes, enfin juste 30 ans après les grandes révoltes des ouvriers de la soie, les canuts.
Tout à fait, sauf que les ovalistes étaient plutôt des femmes.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est une grève massive de plusieurs centaines de femmes ouvrières qui occupent la rue avec le soutien de l'Association internationale du travail. Et ce mouvement est aussi traversé par des contradictions caractéristiques du mouvement ouvrier, dont l'appropriation masculine des luttes et l'affrontement entre le courant anarchiste et le courant marxiste dans sa représentation. Donc, on vous invite à aller à cette rencontre pour en savoir un peu plus et en discuter avec les auteurs et autrices du bouquin.
C'est donc à la librairie de La Griffe en début d'après-midi. Et le soir, il y a un rendez-vous à l'atelier des Canulars, également dans le 7e arrondissement, et non pas dans le 3e, au 91 rue Montesquieu. Et il y a une projection. Ça commence à 20h, et puis après la projection, il y aura un débat avec le journaliste et réalisateur indépendant Marc Bouchage, qui est l'auteur du documentaire qui sera justement projeté et qui s'appelle Colombie, poison contre poison. C'est un documentaire de 52 minutes, donc assez court, et qui est le fruit d'une enquête. Le sujet, c'est l'épandage d'herbicides extrêmement puissants en Colombie sur les plantations de coca. Et la coca sert à fabriquer la cocaïne dans des laboratoires installés dans la forêt amazonienne, la plupart du temps. Mais avant la transformation en cocaïne, donc il faut faire pousser une plante qui s'appelle la coca, et il y a donc des avions colombiens, avec le soutien militaire et financier d'ailleurs des États-Unis depuis au moins 20 ans, qui balancent ces herbicides sur ces plantations, et on imagine bien que des herbicides ultra puissants, eh bien ça fusille pas simplement que la coca, ça fusille également toute la végétation et les plantes qu'il y a autour, et les animaux également, et ça pourrit également assez profondément sans doute les nappes phréatiques. Mais pour en savoir plus, ça se passe demain à l'atelier des Canulars, au 91 rue Montesquieu. Ça commence à 20h.
Et on est peut-être un peu à l'avance, mais on a quand même envie de vous parler de la manifestation qui aura lieu à Lyon le 22 janvier. Donc, c'est dans deux dimanches.
Oui, mais il faut prévoir. Ouais.
Mais c'est important, c'est dans le cadre du week-end Justice et Vérité pour Adama. Le 19 juillet 2016, vous vous en souvenez, on a beaucoup parlé sur Radio Canu, sur Rébellion. Le jour de son 24e anniversaire, Adama Traoré meurt après son interpellation entre les mains des gendarmes de la ville de Beaumont. Ce crime raciste et sécuritaire dont a été victime Adama s'ajoute malheureusement aux nombreux crimes commis par les forces de l'ordre en France. Donc, alors que la famille et les proches réclament toute la lumière sur les circonstances et la mise en examen des gendarmes responsables, l'acharnement contre eux continue. En fait, le 14 décembre, les frères Traoré, donc les deux frères de Adama, sont jugés et condamnés pour avoir réclamé justice. Ce sont 3 mois de prison aménageable pour Youssouf et 8 mois ferme et 2 ans d'interdiction de séjour à Beaumont pour Bagui Traoré. Malgré les deuils et le mépris étatique, la famille Traoré reste debout, digne et continue de mener un combat pour obtenir vérité et justice. Suite au meeting du 3 décembre à Lyon, Awad Traoré, sa famille et les collectifs de la région de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble se rassemblent afin d'organiser pour les 20, 21 et 22 janvier 2017 un week-end justice et vérité pour Adama. Donc c'est un week-end qui se passe sur 3 jours et sur 3 lieux différents. Le 20 janvier, ça sera à Saint-Étienne, où il y aura la projection du documentaire de Sabina Chebbi, « Les coups de leurs privilèges » et discussion avec la famille Traoré et la réalisatrice de ce film. Le 21 janvier, ça sera à Grenoble, où à partir de 16h, il y aura des ateliers d'écriture, des films, un repas, des témoignages et des concerts. Pour finir, le dimanche 22 janvier à Lyon, où il y aura une grande, on espère très très grande, manifestation à 14h à partir de la place Jean Massé.
Voilà, donc grand week-end en soutien à Adama Traoré. C'est dans, c'est pas ce week-end-là, c'est celui d'après. Saint-Étienne, Grenoble, Lyon. D'ici là, paniquez pas.
Niquez tout.
Et maintenant, c'est l'heure de Noise Pollution.
Noise Pollution.
Qui va arriver dans un instant. On laisse les techniciens faire la technique. C'est parti, Noise Pollution.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise Pollution.
Il s'agit de textes qui incitent l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette. Jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.
Couleur noire est essentielle.
J'ai rencontré des gens qui écoutaient du métal. Cette violence tout de suite, cette violence, ces coups qui tapent dans les oreilles, tout de suite ça m'a plu.